conférence. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? En tout cas, moi j'éprouve une joie particulière, n'est-ce pas? Parce que le nom de Dieu a été invoqué avec foi et je crois qu'il peut faire au-delà de ce que nous avons demandé, non seulement pour ceux pour qui nous avons prié, mais pour nous tous ici présents, d'accord? Dieu est fidèle et il nous invite justement à la prière. Je voudrais commencer avec cette petite anecdote, c'est une analogie un petit peu à l'histoire d'Élie. Il y avait dans une contrée deux groupes de prières, d'accord? Et le premier groupe, c'était des personnes beaucoup plus âgées qui priaient pour que dans cette contrée-là, il y ait une pluie, parce qu'il faisait un temps qu'il ne pleuvait plus, je voulais dire. Merci, soyez indulgents. Alors, ils ont prié avec persévérance, avec instance. Il n'y a pas eu de pluie. Le deuxième groupe, c'est des jeunes. Je ne peux pas... Hein. Vieux, excusez-moi. Vous êtes tout aussi puissants que les jeunes. Et ces jeunes... Venez, ils y sont arrivés, ils se sont mis à prier. Tout d'un coup, il y a eu la pluie. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? Ces jeunes étaient préparés, ils sont venus avec leur parapluie.
Alléluia.
N'est-ce pas? Dieu est fidèle. Ils sont venus avec leur parapluie. Ils savaient que là-bas, la situation était sérieuse et qu'ils venaient pour un objectif. Ils savaient pourquoi ils venaient et ils savaient qu'ils voulaient une réponse. Et Dieu leur a donné la réponse. Ils n'avaient pas d'autre choix. Il dit, ses enfants, ah, ils sont très sérieux. Ils ont des parapluies, il faudrait mieux qu'il y ait cette pluie. Alléluia. Voilà, la prière, bien-aimée, est pour nous, croyants, pour nous, chrétiens, je dirais, permettez-moi, ce qu'est, pour ceux qui vont en guerre, pour l'armée, une stratégie, un plan de bataille. C'est ça qui est la prière pour le chrétien. Et nous devons veiller à cela avec sérieux, avec dévotion. Et je nous invite à lire. On va faire beaucoup de lectures, soyez patients. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais Dieu veut nous conduire. Dieu veut que ce matin, une vie de prière soit ravivée. Dieu veut ce matin qu'une décision soit prise pour que tu te lèves chaque jour dans la prière. Oh oui, sans la prière, il n'y a pas de puissance. Je nous invite à lire Éphésiens 6, à partir du verset 13. On va lire jusqu'à 18. Alors, la parole dit... C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. Est-ce qu'on doit continuer? Allons-y. N'est-ce pas? Voilà, c'est dire, un guerrier part avec ses équipements. Et ici, la parole de Dieu nous dit, prenez vos équipements avec vous. Chaque jour, chaque matin, priez. Chaque nuit, oh, ils ne sont pas avec moi. Alléluia. Je voudrais vous communiquer cette vie. Cette joie, je voulais dire, cette joie, la prière nous met dans une position de joie. Par la prière, nous avons la possibilité d'amener à l'existence ce qui a déjà été accordé au ciel. Certaines situations ne pourront pas être exaucées ou voir le jour si nous n'intercédons pas. Et nous allons voir dans le fil pourquoi ma prière, ta prière, notre prière doit être persévérante, doit être constante. D'accord ? Dieu est prêt à toucher l'humanité, mais quelquefois il ne peut pas le faire parce que l'homme qui vit dans cette humanité n'est pas là, il est distrait. C'est pourquoi la parole nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance, d'accord ? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il y a ici un principe, une notion que je voudrais introduire avant de continuer. On nous parle de la volonté de Dieu. Une petite parenthèse. On prie tous en fonction de la volonté de Dieu. Seigneur, que ta volonté. Dieu, que ta volonté. Oui. Mais nous devons retenir que Dieu a une volonté inconditionnelle, une volonté conditionnelle. La volonté conditionnelle de Dieu, c'est celle qu'il décide d'arriver selon sa souveraineté, nonobstant nos efforts, quel que soit ce que nous faisons, nous fassions, je voulais dire, selon que nous le pensons, ça n'a aucun effet parce que lui, dans sa souveraineté, il a déjà décidé, d'accord ? Il a décidé de manière souveraine que ce qu'il a appelé à l'existence puisse voir le jour parce que c'est sa volonté inconditionnelle. Principe. Le deuxième, c'est la volonté conditionnelle de Dieu. Là, c'est pertinent. Là, c'est important. C'est là où nous tous, nous rentrons dans la danse, n'est-ce pas ? C'est là où nous tous, nous sommes puissants. Il veut partager cette puissance avec nous. Il dit, dans la volonté conditionnelle, les choses sont déjà accordées, mais il attend ma décision. Il attend que je puisse me mettre à prier pour que, justement, ce qu'il a déjà accordé puisse se faire. Si tu ne collabores pas, il n'y a pas d'exaucement. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de miracle. Si tu ne te mets pas à genoux pour prier, il n'y a pas de guérison. N'est-ce pas ? Si tu ne pries pas, Dieu ne fera rien, il ne bougera pas d'un iota parce que simplement, sa volonté, c'est que tu participes avec lui à amener à l'existence ce qu'il a déjà ou ce qu'il a déjà, en tout cas, décidé et approuvé dans le ciel. C'est donc dire, ta prière qui monte vers le ciel tire du ciel vers le bas la volonté de Dieu qui est celle que toi tu désires voir s'accomplir fermement. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Ici, nous savons tous, en tout cas, qu'il faut prier. C'est un rappel à la prière. Et notre texte de base, je ferme ma parenthèse, c'était pour que nous puissions avoir à l'esprit pourquoi nous devons prier instamment. Et je nous invite à lire, comme vous le savez, notre thème de base est tiré du livre de Jacques 5. Donc on va le lire à partir du verset 13 jusqu'à 18 ou 20, si voilà, jusqu'à 20. Allons jusqu'à 20, c'est mieux. Alors, Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens de l'Église prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relevera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, on souligne juste, a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude des péchés. Alléluia! N'est-ce pas? C'est notre thème de base. C'est ce qui va nous conduire pendant ces mois. Et que Dieu nous bénisse. Alors ici, bien-aimés, nous avons plusieurs éléments que Jacques met en avant. Et ce matin, comme je le disais en introduction, Dieu souhaite à ce que nous puissions avoir une vie de prière active, à ce que nous puissions renouveler cette vie de prière. Si nous étions peut-être dans une forme d'apostasie, si nous sommes peut-être dans une forme de paresse ou de fatigue, le monde tellement omnubilé, je dirais en guillemets, par le coronavirus, tout le monde est focalisé sur la question du coronavirus, chacun essayant de trouver sa voie sur, en tout cas, ces circonstances, Dieu souhaite que nous puissions nous mettre dans la prière. Dieu souhaite renouveler cette relation que vous avez avec lui. Dieu veut que vous puissiez ensemble avec lui communiquer constamment. Et donc, pour que nous puissions arriver à ces fins, on va voir cette notion qui nous permettront en tout cas d'avoir une vie de prière efficace. Vous savez, le maître mot ce matin, c'est la prière. Dieu veut que nous puissions renouveler cette vie de prière. Il veut que nous puissions la raviver. Il veut que nous puissions lui donner une flamme nouvelle, cette énergie nouvelle. Alors, la première notion qui peut nous conduire justement vers cette prière, en tout cas efficace, c'est celle de comprendre et de reconnaître que la prière est le moyen de communication avec Dieu. C'est ce moyen où nous communions avec lui. N'est-ce pas? La Bible dit « prier sans cesse ». Et Jacques nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la joie ?» On se rend compte que, quelles que soient les circonstances, on est dans une forme de communion avec Dieu. C'est dire que Dieu, reconnaissons dans notre vie de prière que la prière est le moyen de communier avec Dieu, c'est le moyen de communiquer avec notre Dieu. Alors notons dans ce passage que Pierre utilise une forme interrogative. Il dit « Quelqu'un parmi vous est-il ?» Dans l'interrogation, il y a l'interpellation. Il t'interpelle ce matin. Quelle est ta vie de prière? Tu es dans la joie. Tu es dans la souffrance. Mais mets-toi à prier, mon enfant. Je suis là. Je ne t'abandonne pas. Tu es dans la joie. Chante. Mais restons ensemble parce que ma puissance s'accomplit dans cette communion avec toi. D'accord? La maladie, les épreuves, les joies sont des invitations fermes du Seigneur pour la prière, pour la louange, pour des cantiques à la gloire de son nom. Le deuxième principe ou la deuxième notion que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que la prière n'est jamais un acte solitaire. Elle est efficace avec l'Église. On l'a vu tout à l'heure que la prière de la foi sauvera les malades s'il vient vers l'Église et qu'il y a cette onction d'huile. On a fait cette onction d'huile ce matin et nous avons foi que Dieu agira. D'accord? Mais écoutez bien, j'ai dit la prière n'est jamais un acte solitaire. La prière nous dit « Cache-toi dans ta chambre et prie ». Quand on le lit de cette manière-là, on comprend qu'on est seul. Mais ici, j'ai dit ce n'est jamais un acte solitaire parce que, voyez-vous, le Saint-Esprit est là et il prie avec nous. On n'est jamais seul dans la prière. Et on peut le découvrir dans la parole de Dieu. On va lire dans Romains 8, 26. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » J'aime la version Martin. J'aime bien ceci et je vais la lire pour vous. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'esprit, car il prie pour les saints selon Dieu. Vous n'êtes jamais seul dans la prière. Dans ta chambre, tu n'es pas seul. Commence là-bas parce que c'est dans ta chambre que ta puissance, c'est dans ta chambre que ta vie de prière prend son envol. Et dans l'église, tu es un aigle. N'est-ce pas? Alléluia! Si dans ta chambre, ta vie de prière est puissante, avec le Saint-Esprit, à l'église, tu as une prière puissante. Tu es un aigle qui prend son envol. Et quand tu cours, tu ne te fatigues point. Et même si tu marches, tu ne t'arrêtes pas, parce que la puissance de Dieu est avec toi. On est ensemble? Et avant de passer à la prochaine notion, je voudrais vous partager cette expérience qui décrit très bien la force de la prière collective. Seul avec les Saint-Esprit, c'est une prière collective. Avec les saints de l'Église, c'est une prière collective. Nous avons Moïse, donc la tribu d'Israël, face aux Amalécites. Il y a une bataille, n'est-ce pas? Alors Moïse dit à Josué, toi tu vas partir sur le terrain de bataille, nous allons monter à la montagne. Je vais prendre avec moi Hur, je vais prendre avec moi Aaron, nous allons partir prier. Nous élèverons nos mains vers le ciel, sur le terrain tu auras la victoire. Ils sont partis, ce que Moïse avait dit, c'est ce qui se passait. Mais notons une chose, Moïse seul pouvait faire cette prière. Mais regardez Moïse, avec tout le poids de la mission qu'il avait, avec un bâton, il se fatiguait. Et quand il se fatiguait, qu'est-ce qui se passait? Sur le terrain, il perdait de la force, il perdait du terrain. Alors Moïse était obligé de repartir. Fatigué, qu'est-ce qui s'est passé? Aaron et Hur sont venus le soutenir. En les soutenant, ils ont maintenu la main de Moïse. Jusqu'au matin, la victoire a été certaine. C'est une notion profonde. Parce qu'aujourd'hui, la Bible nous dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Nous avons ce même combat. Je suis dans la prière, je prends de l'ascendant sur ma chair. Je faiblis, la chair prend de l'ascendant et je perds ma connexion avec Dieu. N'est-ce pas? Vous comprenez cette connexion? Demeurons dans la prière. La troisième notion, c'est la prière participe à la délivrance du péché. Lisons Jacques rapidement, le temps file. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voyez-vous, Dieu apporte une nouvelle notion au travers de Jacques. Il y a la notion du pardon dans cette prière instante, dans cette prière persévérante, dans cette prière de foi. Dieu dit qu'il te relève. Dieu dit que si tu as commis des péchés, ils te seront pardonnés. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On n'a pas mis ça avant. Pourquoi? Parce qu'on dit confessez vos péchés les uns les autres. Priez ensemble. Il y a une autre notion qu'on introduit dans la suite. Mais avant de partir, dans la notion de repentance ou de confession, il y a une notion de repentance. Et qui se repent accepte la délivrance que Jésus nous a donnée. Et donc, il y a cette nécessité de rester en communion dans la prière. Et l'Église qui se lève pour prier, pour faire cette prière de foi, a une autorité que Dieu lui confère. Et cette autorité, elle est agissante et puissante. Si aussi là, le Christ ou le Seigneur trouve dans une Église la communion d'esprit, la communion des cœurs, la communion dans la gestion de l'Église, et c'est de cette manière qu'on est puissant. L'Église primitive persévérait dans la prière. On ne met pas trop en avant le fait que la mère de Marie était là et tous les autres qui étaient là. On met souvent en avant les apôtres. Mais voyez-vous, cette prière, ces personnes n'étaient jamais seules. Ils persévéraient dans la prière en groupe. Il y avait certes des leaders, mais il y avait aussi derrière eux toutes les personnes qui avaient cru en Jésus-Christ. Dieu veut que nous puissions tous, ce matin, avoir la même vie de prière. Et Jacques nous dit, dans Jacques 4, il dit, « Vous convoitez et vous ne possédez pas, Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Soyez avec moi parce que au fur et à mesure qu'on avance, il y a des notions qui rentrent, qui se rajoutent en supplément comme des cerises sur les gâteaux pour que on comprenne ensemble où est-ce que l'on part. C'est dire que la notion de la prière fervente du juste trouve sa réponse ici. Tu es juste quand tu demandes bien. Tu es juste si tu ne demandes pas selon la convoitise de ton cœur pour satisfaire un désir égoïste. Tu es juste quand tu demandes pour que cela soit mis à la disposition de l'Église par toi, que tu sois une bénédiction et non que ce soit pour toi une occasion de chute pour les autres. D'accord ? La prière fervente du juste. La quatrième notion, c'est la persévérance active, la grâce et la miséricorde de Dieu. On l'a vu, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Il y a la notion de la miséricorde de Dieu. Il y a la notion du pardon parce que l'Église a prié avec, parce que tu es venu avec humilité devant le Seigneur et il t'offre sa miséricorde. La prochaine, elle est liée. La cinquième notion, c'est que la prière doit être dite avec humilité et soumission. Dans ta chambre, quand tu pries devant le Seigneur, sois humble, sois soumis et écoute. Il te parlera. Le Saint-Esprit qui est là t'enseignera parce que tu pries avec lui. Il te dit, tu ne sais pas prier, ce n'est pas grave. Moi, je sais ce qu'il te convient de demander. Je vais le faire à ta place. Prie, n'est-ce pas? Il y a la notion de la collaboration. Il faut collaborer avec Dieu dans cela. La prière doit être dite avec humilité, soumission. La sixième, j'aime celle-ci. La manière de prier doit révéler notre désir d'exaucement ainsi que notre foi en Jésus. Jacques nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, d'accord, et le Seigneur l'a relevé. J'aimerais particulièrement qu'on s'arrête sur ceci, parce que ça va débloquer notre façon de prier si jamais elle est priée. On l'a dit, c'est la volonté de Dieu que nous puissions prier. Élie était un homme de foi, un homme de prière. C'était un homme humble et un homme soumis à Dieu. Élie a reçu l'instruction de Dieu de retourner voir le roi d'Israël, Akab, ou le roi de Samarie à l'époque, lui disant qu'il va pleuvoir. Et je ne veux pas revenir sur tout le récit, mais je voudrais partir sur quelques événements spécifiques qui vont essayer d'ouvrir de débloquer notre vie de prière. Alors le Seigneur lui dit, au verset, nous sommes dans 1 roi 18, au verset 1, le Seigneur dit à Élie, va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. On passe, vous aurez le temps de relire. Je vais au verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a la notion de la confession. Ils sont revenus au bon sentiment parce que leur Dieu, leurs idoles de Baal n'étaient pas opérants. Moïse a fait des choses, plutôt Élie a fait des choses extraordinaires. Je passe, vous lisez, vous allez comprendre l'histoire, on n'a pas beaucoup de temps. Au verset 41, il est écrit, Élie dit à Akab, oh, ça commence ici, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Écoutez bien, il dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Mont Carmel. Il avait reçu l'instruction du Seigneur, il pouvait bien partir, manger et boire avec Akab, parce qu'il venait d'accomplir quelque chose de merveilleux. Les dieux des Baals étaient détruits, les prophètes tués. Mais non, lui monte au Mont Carmel avec son serviteur. Il monte, la Bible dit ceci. Il mit son visage à terre entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Pourtant, tout à l'heure, il vient de dire qu'il y a une pluie qui s'annonce. Mais il demande à son serviteur, va, rentre, Va voir s'il y a une pluie qui s'annonce. Et pendant ce temps, qu'est-ce que Élie fait? J'aimerais tant vous le montrer, mais je vais faire un effort. C'est-à-dire qu'il descend entre, il descend et il met ses pieds, la Bible le dit clairement, entre ses genoux. Comment tu pries chez toi? Élie savait que Dieu allait faire, parce que Dieu l'avait dit, va, je vais envoyer la pluie. Pourquoi il va aller se mettre face contre terre? Il se met, il dit, va voir, est-ce qu'il pleut? Son serviteur part, il dit, Élie, je suis désolé, il n'y a rien. Une fois, Élie par terre, tac, les pieds, les genoux, la tête entre les genoux. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, rien. Sixième fois, et la septième fois, il dit, ah, je vois une nuée. Grande comme la main d'un homme. Élie avait la promesse de Dieu, mais il n'est pas parti boire. Il est rentré à la brèche. Il s'était né là. Il poussait l'enfantement, 7 jours. Pousse ! Oh Seigneur, descends la pluie ! Seigneur, je veux voir cette pluie ! Il s'est mis dans des conditions physiques difficiles. Vous pouvez, faites-le à la maison, allez-y, essayez. C'était difficile. Comment quelqu'un peut prier comme ça? Il a vu cette nuée et Moïse a dit, Élie dit à son serviteur, va dire à Akab qu'il monte sur son char, il est temps de partir. Parce que cette pluie qui arrive, elle risque de nous emporter. La Bible dit, Élie a pris ses vêtements, il a une puissance surnaturelle. Akab était sur des chars, tac, tac, tac. Mais Élie courait. Élie est arrivé avant Akab, parce que le Seigneur l'avait renouvelé, parce que cette prière était montée d'une manière où il disait, Seigneur, tu m'as promis qu'il y aura cette pluie, moi je vais voir cette pluie. Je me mets à genoux, face contre terre, je cours, je prie, je dis, Seigneur, envoie-moi cette pluie. Comment tu pries chez toi? Comment pries-tu chez toi? Voilà, l'ordinateur va me lâcher. Alors, il est dit ici que Élie est parti en courant et il est arrivé avant Akab. Un autre exemple. Anne, où es-tu? Où est Anne dans cette salle? Il est dit dans la Bible que Anne s'était née dans l'église. Et elle priait. Élie a pris pour folle cette femme. Mais elle priait. Cette femme priait, elle pleurait. Mais c'était les douleurs qui venaient du fond de ses tripes. Elle désirait profondément avoir cet enfant. Et le Seigneur lui a donné cet enfant. Et cet enfant a été une bénédiction non seulement pour elle, mais pour la tribu d'Israël. Mais Élie a cru que cette femme était folle. Comment tu pries? Où est Anne? Où est Anne? Prie, pleure, ne regarde pas qui va juger ta manière de prier. Prie, demande, sollicite tes tripes, prie. Roule-toi sur le sol dans ta chambre, prie. Mets-toi à genoux, prie. Il est dit que parfois Jésus priait toute la nuit. C'est Jésus, fils de Dieu, rempli de la puissance, rempli de tout. Mais il partait toute une nuit à la montagne pour prier. Et quand il descendait, à chaque fois, il s'est passé quelque chose. Il monte toute la nuit, quand il revient, il nomme les disciples. Pourquoi il ne pouvait pas le faire avant? Je suis le fils de Dieu. Ah oui, Stéphane, tu es apôtre. Jean-Jacques, tu es ceci. Mais non, il est parti prier. Et où? Toute la nuit à la montagne. Combien de temps tu pries? Combien de temps passes-tu dans la prière? Le Seigneur veut que tu puisses raviver ta vie de prière ce matin. Ta prière a un bénéficiaire, non seulement toi, ta famille, mais quelque part, qui attend que cette prière soit dite, afin que le Seigneur puisse libérer une grâce. Regardons Pierre et Corneille. Corneille était un homme pieux, il priait. Il ne connaissait pas Pierre. Mais puisqu'il priait, instamment, il a reçu, en tout cas, une vision lui demandant d'aller ou d'inviter quelqu'un. Mais qui était cet homme? C'était Pierre. Mais comment Pierre priait? Sur le toit. Pierre, quand il voulait se retrouver dans la prière, en ce moment-là, à Joppé, il était sur le toit. Et il est dit que Pierre a eu faim, il est tombé en extase. Comprenez là que Pierre jeûnait. Combien de temps tu jeûnes? Au point de tomber en extase pour que le ciel s'ouvre et que tu aies une table où on t'ait dit « Voilà !» Prions. Lève-toi et prie. Et la prière doit être dite avec la parole de Dieu. Quelquefois, on cherche à Seigneur, quelle est ta volonté dans ma vie? Dieu a tout laissé. Vous priez mal. Vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Ou vous demandez mal. D'accord? Dieu a tout prévu. Tu es dans l'affliction ou tu es affligé, Jésus. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Tu es faible, ma grâce te suffit, car ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Paul. Les promesses de Dieu sont détaillées dans sa parole. Les promesses sont là, il faut fouiller. Chaque situation que nous traversons a une réponse, a une provision. Mais comme je le disais au début, il y a une volonté conditionnelle et inconditionnelle. Certaines volontés de Dieu pour vous ne viennent pas parce que votre vie de prière n'est pas sérieuse. Votre vie de prière n'est pas faite avec dévotion. Ramenez la dévotion dans votre prière. Ramenez la ferveur dans votre prière. Et enfin la dernière, l'épilogue. La prière des sarments porte du fruit quand il reste attaché au vrai cep. Hey, hey, j'aime ça. On va lire dans Jean 15. C'est gentil, merci. On va lire dans Jean 15 à partir du premier verset. Jean 15, à partir du premier verset. Pour moi, j'ai dit à elle seule cette notion, non seulement elle regroupe les six premières, mais elle nous fait prendre conscience de ce qu'est Jésus pour nous et de ce que nous ratons quand nous n'avons pas une vie de prière active. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le purifie, il le taille dans les différentes versions, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Plusieurs notions, vraiment. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que je vais garder les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je m'arrête là, je reprends. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Êtes-vous dans la souffrance? Priez. Êtes-vous dans la joie? Chantez. Demeurez dans quoi? Dans la joie du Seigneur. Demeurons dans la joie. C'est-à-dire que quand nous demeurons dans la joie, même l'affliction par laquelle nous passons, la manière de la vivre est différente. Parce que je souffre, mais je chante, je dis, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. N'est-ce pas? Regardez la joie que Jésus vous confère. Acceptez cette joie en vous. Ne vivez pas par vous-même, vivez par Jésus. C'est ici mon commandement, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. La notion d'amitié arrive. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Ça, j'ai rajouté. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tu n'es plus serviteur. Tu es avec Jésus, ami, son pote. Langage commun, c'est mon pote. Avec lui, je deal. Je deal, je fais des affaires. Il me dit, ici, tu n'es pas gagnant, là, tu es gagnant. Ton pourcentage, il est ceci, le mien, il est cela. Je demeure avec le Seigneur. Je suis son ami. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a hait avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ouh! Vous êtes son ami. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans la loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès les commencements. N'est-ce pas? Dieu est fidèle. Il y a plusieurs notions qui sont introduites là par Jésus et il nous commande de nous aimer les uns les autres. Et il dit si nous demeurons en lui, c'est pourquoi on dit la prière du sarment ou des sarments porte du fruit quand il reste attaché au cep. Alléluia. Ce verset en lui seul, ou cette parabole en elle seule, rappelle les fondements même du ministère rédempteur de Jésus. Il nous rappelle les enseignements profonds de la parole, l'amour fraternel, la patience les uns vis-à-vis des autres, la repentance pour le péché, refuser d'être retranché du cep. Parce que le cep qu'on retranche, on le brûle. Mais soyez ce cep qui porte le fruit. Les bénédictions du royaume, de la vie. Jésus est venu pour nous prêcher la vie éternelle, quelles que soient les circonstances, ainsi que la guérison pour ceux qui croient. Donc la prière ici, mes bien-aimés, a une place prépondérante dans notre vie. C'est-à-dire que si nous voulons avoir une qualité de vie avec notre Seigneur, nous devons restaurer notre prière. Parce que notre prière nous émonde, la parole le dit. Notre prière nous purifie. Et on dit, le Saint-Esprit sera avec nous. Notre prière ramène le Saint-Esprit dans cette affaire. Et quand le Saint-Esprit rentre dans cette affaire, il nous enseigne les choses qui ne sont point montées aux oreilles de l'homme, ni dans son cœur, mais du cœur de l'Éternel. Ce sont ces choses que le Saint-Esprit nous enseigne. Quand il voit nos limites, le Saint-Esprit se nous enseigner et nous dire, voilà tes limites. Et donc ce matin, je voudrais faire la prière que Paul a faite pour chacun de nous. Dans Éphésiens 3, 14, 21. Je m'approprie cette prière pour dire, Seigneur, je plie mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie pour qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Saint-Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ qui habite dans votre cœur par la foi, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Oh, regardez ceci. Quelle est la longueur? Quelle est la profondeur? La hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu à celui qui peut faire. Par la puissance qui agit en nous, infiniment plus grand, tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.